rich folks eating in a fancy dining car, probably drinking coffee and smoking big cigars. When I knew I had it coming, I know I can't be free. But those people keep on moving, and that's what tortures me.
Thank you. fameux bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier.
Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Civipassem. Nous allons écouter une émission avec Bernard Bessa, qui nous a enregistré, qui nous a envoyé. Donc j'espère que vous appréciez, comme d'habitude, bien sûr, parce que le travail de Bernard Bessa auprès de l'Opéciste est formidable. Juste un petit rappel avant de vous lancer l'émission avec Bernard, c'est que le prochain 30 avril, dimanche prochain, nous serons avec l'Union Pacifiste et d'autres organisations vers le métro Javel-Ballard, par le tramway aussi, vous pouvez y accéder, pour manifester contre le village du SNU qui se déroule en ce moment en plusieurs villes en France. Et bien sûr, partout, nous avons décidé de participer à cet appel intersyndical et des organisations et pas inorganisées qui s'appelle l'Interville de Zbeul. Et nous allons zbeuler, bien sûr, le service national universel que auquel nous nous opposons clairement. Voilà, pour que la jeunesse ne marche pas au pas, pour que le service militaire ne revienne plus, que la conscription ne soit plus obligatoire et qu'on ne vienne pas faire de la marche arrière. Nous appelons tous les pacifistes et non-pacifistes qui s'opposent au SNU à venir manifester dimanche prochain, 30 avril. Ça commencera dès 10h du matin aux stations de métro, au tramway Ballard.
Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civipacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Annick Moreau et de Maurice Monté pour parler de deux organisations pacifistes internationales, le Mouvement International de la Réconciliation, plus connu sous le nom de MIR, et la section française de l'Internationale des Résistants à la Guerre, bien connue l'Union Pacifiste. Ces deux organisations sont nées toutes les deux après la Première Guerre mondiale et elles sont engagées toutes les deux dans la résistance à toutes les guerres et pour la paix. Plusieurs personnalités pacifistes que nous évoquerons dans cette émission étaient d'ailleurs membres des deux organisations, même si ces deux organisations présentent quelques différences que nous allons découvrir. Mais pour en parler, mieux vaut d'ailleurs écouter Annick Moreau, membre du MIR, et Maurice Monté, secrétaire de l'Union pacifiste, que nous avons enregistré au début du mois d'avril 2023. Et nous commençons avec Annick Moreau, qui évoque tout d'abord l'IFOR à l'origine du MIR.
Donc l'IFOR a été créé en 19, mais avant, il faut revenir... Il y a en Europe et aux États-Unis donc des églises qu'on appelle églises protestantes historiquement pacifiques. C'est les Mennonites, les Quakers et une branche des Anabaptistes. Et ces gens ont toujours été pacifistes intégraux et très vite donc. À la fin du 19e siècle, il y a eu une convergence de tous ces pasteurs, quakers, mennonistes, avec des antimilitaristes qui étaient plus de la mouvance anarcho-syndicaliste. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... Avant la guerre de 14, un très grand mouvement antimilitariste pour la paix qui rassemblait beaucoup de monde. Il y avait Romain Rolland en France, il y avait Tolstoï, il y avait beaucoup de gens connus et naturellement de gens bien moins connus. Mais on n'a pas idée actuellement du pacifisme d'avant 1914, où les gens ressentaient très très fort l'antagonisme des empires, empire allemand et empire anglais, en quelque sorte. Et donc, donc des pacifistes, quakers, catholiques, ou presbytériens aussi, enfin donc plusieurs membres d'église ont suscité une conférence internationale qui s'est déroulée à Constance, donc en Allemagne, dans le pays de Bade, en août 1914 et le 1er août 1914, donc juste la veille de la déclaration de guerre, ils ont commencé à se réunir et elle a été un peu interrompue parce qu'il fallait que les gens repartent chez eux, mais c'était énormément d'églises, des gens venant de toute l'Europe et tout de suite qui se sont mis d'accord par un communiqué commun pour... dire que les chrétiens n'avaient pas participé à la guerre. Et donc, il y avait des hommes là assez extraordinaires, un quaker américain qui a eu le rôle d'un peu de secrétaire itinérant. Et donc, pendant la guerre, il a gardé des liens un peu avec tout le monde. Et donc, ils ont créé la branche britannique en 1916.
Pendant la guerre,
et il y a eu immédiatement 1500 participants à cette branche-là. Ça a été vraiment très, très important. Et des gens aussi très... Ils étaient antimilitaristes, pacifistes, et tournés vers le travail social des chrétiens. C'était essentiellement des chrétiens et essentiellement des protestants, il faut bien le dire, en Angleterre. Et puis donc en 18, il y a eu la branche américaine qui s'est créée, et toujours en gardant des liens avec les pays en guerre, avec les chrétiens pacifistes des pays en guerre, la France, la Belgique et l'Allemagne. Et donc, en 19, aux Pays-Bas, il y a eu création de l'international, du MIR international, qui était donc complètement issu de cette conférence pour la paix et l'amitié entre les chrétiens de 14.
Alors c'est à ce moment-là que la branche française est arrivée. Alors c'est une branche très ancienne, tout de suite après la Première Guerre mondiale.
Donc la branche française a été créée en 1923, donc nous allons fêter le centenaire, et qui est arrivée donc un petit peu après, parce que donc la France était quand même très touchée par la guerre, et c'est des jeunes en fac de théologie, faculté de théologie de Paris, qui ont entendu une conférence de ces fameux Anglais et Américains qui faisaient des tournées de conférences, et ils ont été touchés par leur message sur la cohérence entre le message évangélique qu'ils ressentaient et le pacifisme. Et très vite après va arriver le passage du pacifisme à la non-violence avec les méthodes gandhiennes, que tout de suite le MIR, dès 1929, va prendre comme méthode d'action non-violente. Voilà.
Alors après la guerre, aussi peu après la Première Guerre mondiale, est créée aussi l'Internationale des résistants à la guerre. Alors l'Internationale des résistants à la guerre, quelle différence ça a donc avec le MIR ?
Alors, l'International des résistants à la guerre, je dirais, et l'UPF, qui ont été créés à quelques années près en même temps, enfin, on peut dire en même temps, n'ont pas le même... ils ne veulent pas toucher le même public. L'International des résistants à la guerre, en France en particulier, était plutôt donc de mouvances anarcho-syndicalistes et de pacifisme et très anti-militariste. Le mouvement de la réconciliation, et donc c'est qui est issu de l'IFOR, et IFOR, ça veut dire International Fellowship of Reconciliation. Donc le fellowship, c'est une communauté fraternelle, et reconciliation, ça sort directement, c'est biblique, hein, ça sort des épîtres de Paul, et pour la réconciliation que Dieu donne au monde, et que les hommes doivent apporter au monde, les chrétiens doivent apporter au monde. Et donc tout de suite ça a été une organisation d'obédience spirituelle. Donc en Europe c'est essentiellement des chrétiens protestants catholiques, totalement œcuméniques, hein, on ne fait pas de différence. Dans le monde entier, il y a des branches qui sont d'obédience musulmane ou jainiste, mais très souvent, il y a une base spirituelle. Et donc en France, c'est vraiment un mouvement chrétien.
Alors, c'était quand même nouveau pour des chrétiens, parce que pendant la Première Guerre mondiale, surtout en ce qui concerne les catholiques, ils allaient bénir les armes, ils allaient bénir les soldats. Et alors là, ça, c'était complètement différent.
Oui, mais c'était les catholiques, hein, qui faisaient ça quand même. Hein. Les protestants étaient plus mitigés et parfois partagés quand même. Hein. Partagés là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu... la notion de la guerre juste, hein, qui a été quand même très, très défendue par le catholicisme, et le fait que la plupart des chrétiens sauf une fraction allemande, une fraction protestante allemande et française qui ne se sont pas alignées sur cette sur ce côté-là. Quelque chose de capital, et c'est vrai que pour ceux qui lisent l'Évangile d'une certaine façon, c'est vraiment un message de pacifisme.
Alors toi, tu as lu aussi l'Évangile, et tu es venu comment, toi, à la, justement au pacifisme?
En partie, hein, parce que j'ai été élevé dans une famille très protestante, notre arbre généalogique part d'un pasteur en 1590 ou quelque chose comme ça, une famille très attachée au niveau du protestantisme. Et puis j'ai eu l'instruction religieuse protestante, et puis un jour je me suis dit, attends, avec ce qui s'est passé en Algérie, les copains que nous avons perdus et tout, je suis objecteur de conscience. Alors j'ai été voir mon pasteur qui avait fait cette éducation, et je lui ai dit, si je prends au sérieux l'éducation que vous m'avez donnée, je suis objecteur de conscience. Ouh là là, alors il m'a dit, ouh là là, non, non, tu fais une grave erreur et tout ça. Et le culte suivant, ça l'avait marqué quand même, cette conversation. Il m'a dit, il dit en chair, il faut s'engager, nous les chrétiens, nous devons nous engager. Il y a l'objection de conscience qui est une belle erreur. Ah ! Alors, ça a été très dur pour moi. Et je suis parti, j'ai quitté la paroisse. Et je ne suis revenu que pour les obsèques de mon père, de ma mère et de ma sœur aînée. Mais il y avait aussi un jeune pasteur qui s'occupait de la jeunesse, qui n'était pas vraiment d'accord avec moi, mais qui m'a invité deux fois à des week-ends des jeunes pour lancer le débat et présenter l'objection et lancer le débat sur l'objection de conscience. Donc ça m'a réconforté quand même. Hein. Et puis ensuite, j'ai rencontré au Service Civil International, dont j'étais membre et dont je suis toujours membre, même si je ne fais plus de chantier, j'ai fait beaucoup de chantiers de jeunes. Et le pasteur Roser, qui en était le président et un des fondateurs de la branche française, nous a dit, il y a aussi le mouvement international de la réconciliation qui a été fondé par des objecteurs.
Le canon de son fusil, il a mis une rose de son pays, que lui a donné Samy. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, tu serais mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, une rose dure plus que la vie, mon ami, il ne faut pas t'en étonner. C'est à cause de l'éternité. Dans les cartouchières qu'il a touchées, il a mis les photos de ceux qu'il aimait, sa vieille mère, sa jument, lui, en premier communiant. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, tu serais mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, un souvenir dure plus que la vie, mon ami, il ne faut pas t'en étonner, c'est à cause de l'éternité. Dans le képi qu'il a coiffé, il a mis de l'eau de pluie, et puis une grenouille de sa prairie. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, tu serais mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, une grenouille dure plus que la vie, mon ami, il ne faut pas t'en étonner. C'est à cause de l'éternité. Quand l'ennemi est arrivé, il ne lui a opposé qu'un pétale de rose fané, une grenouille, des souvenirs, en un mot, des mots d'amour. C'est pour ça qu'il y est resté, mon ami, tu es mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, les amours durent plus que la vie, mon ami, il ne faut pas t'en étonner. C'est à cause de l'éternité. C'est à cause de l'éternité.
Et alors, en 1921, toujours à Beethoven, aux Pays-Bas, s'est créé l'International des résistants à la guerre, qui comportait donc des membres du mouvement international de la réconciliation, mais qui préférait travailler avec des anarchistes, avec des gens qui n'avaient pas d'étiquette, mais pas rester spécialement là-dedans. Et puis des anarches qui se trouvaient un petit peu gênés par l'atmosphère chrétienne encore de la réconciliation. Alors il y a toujours eu des ponts entre l'IRG et le MIR. Il y en a pas mal, il y en a plusieurs qui ont toujours fait partie des deux. Il y a eu des actions communes, enfin il y a toujours eu une grande action.
Alors ce terme de réconciliation, bien sûr c'était absolument nécessaire après la guerre. Est-ce que c'est de là qu'est venu ce terme, parce qu'il y a toujours des guerres? Et est-ce que cette réconciliation doit se faire, enfin est-ce que c'est ce que prône le MIR?
Absolument, absolument. C'est toujours à l'ordre du jour. Donc, après la guerre de 14, il y a Pierre Cérézol qui a créé le service civil international et qui était donc secrétaire du MIR pendant quelques années. Après, bon, il est parti sur les chantiers du service civil international parce que c'était trop de travail, mais il a toujours été proche. Et ça, c'était les services civils, c'était mettre les Allemands, les Français en adéquation, faire ensemble des choses. C'est une belle phrase de Lanza del Vasto qui dit « c'est en faisant que les hommes se font ». Et je trouve que c'est une très belle phrase et c'était l'idée que Pierre Cérézol a développée. Et la réconciliation, encore à l'heure actuelle, c'est aussi donc la réconciliation à l'intérieur de soi-même. Donc c'est toutes les méthodes gandhienne de non-puissance, non-nuisance pour se réconcilier avec soi-même, qu'on devienne moins agressif ou qu'on sache canaliser ses émotions. Donc il y a toute la formation qu'on peut faire sur soi-même et puis il y a tout ce qu'on peut développer pour être en médiation, en résolution de conflits, avec toutes les méthodes maintenant modernes que les neurosciences nous ont apportées. Il y a tout ça qu'on essaye de développer et essayer d'amener la réconciliation dans les conflits internationaux.
Au MIR, il y a eu des personnages importants. On a parlé déjà. Henri Rosaire. Alors, Henri Rosaire, quel rôle a joué Henri Rosaire dans le MIR?
Alors, Henri Rosaire a été pendant plus de 30 ans le président du MIR France et il a été aussi secrétaire itinérant pour l'Europe aussi. Alors, Henri Rosaire a voulu être pasteur, mais il avait fait son service militaire et il était officier. Et puis, il a eu un appel en disant qu'il voulait devenir antimilitariste et pacifiste. Il devait partir comme missionnaire après ses études de théologie Et là, à l'époque, la mission de l'Église réformée de France lui a refusé le poste. Et donc, pendant très, très, très longtemps, il n'a pas pu être pasteur. Mais il a été appelé par un monsieur extraordinaire qui était à la mission populaire évangélique, le pasteur Nick, dans le nord de la France, et qui était un... Et donc, c'est grâce à lui que Henri Roser a pu être évangéliste. Et puis ensuite, il a été secrétaire du itinérant pour le MIR. Et ensuite, donc, il est devenu, pendant 30 ans, il a été le président, un président très charismatique. Il s'est beaucoup engagé, puisque très vite, le MIR s'est engagé à soutenir tous les objecteurs de conscience. Donc lui, il était de tous les procès comme personne de moralité, si je puis dire. Mais lui-même, donc, a été en prison, puisqu'il était considéré comme réfractaire, puisque à l'époque, il n'y avait pas de statut de l'objection de conscience. Donc, quand ils renvoyaient leur matricule, je ne sais pas comment ça s'appelle, le livret militaire, à ce moment-là, il devenait réfractaire. Et donc, en 39, il a envoyé une dernière lettre aux membres du MIR France en août 1939 pour dire que les temps qui nous attendaient allaient être très très durs et qu'il fallait se soutenir et puis que les temps allaient peut-être être de procès et peut-être pire, hein, donc voilà. Et donc, il a été incarcéré à la caserne. Hein. C'était généralement les réfractaires. Ils étaient d'abord à la caserne avant le procès, qui était un procès plus ou moins militaire, avant d'être en prison. Et donc, Henri Roser, qui était père de famille, qui avait 40 ans, disait au colonel ou général là qui l'interviewait, et qui était lui-même catholique pratiquant, elle disait: mais monsieur Roser, je vais vous trouver une place de boulanger, je vais vous trouver quelque chose, mais ne soyez pas réfractaire, je suis obligée de vous incarcérer si vous êtes réfractaire. Et donc il a pas moufté, il a dit non, c'est ma décision et c'est mon objection de conscience. Et donc normalement il était parti pour toute une guerre en prison, mais avec la débandade après la drôle de guerre, les prisons se sont ouvertes.
Il a pu sortir.
Voilà. Donc lui, il a soutenu les membres, tous les objecteurs et tous les membres du MIR qui étaient engagés tout le long de la guerre. Et donc après, il y a eu donc toutes les problèmes de la guerre d'Algérie. Enfin, de la guerre d'Indochine d'abord, puis la guerre d'Algérie, et puis enfin toute la décolonisation. Et donc,
il soutenait aussi à ce moment-là les réfractaires à la guerre d'Algérie.
Il n'y avait toujours pas de statut d'objection de conscience. Donc ils étaient tous en procès, et même il y a eu un, je sais pas s'il était déjà pasteur, un protestant de l'Église réformée, pas Quaker ni Mennonite, mais vraiment, et qui a recueilli chez lui quelqu'un du Front de Libération,
Du FLN.
Du FLN. Et il y a eu un procès et Roser a été encore une fois témoin de moralité et avec une grosse prestance. Et puis donc cette guerre d'Algérie, il y a eu donc énormément de jeunes qui ont refusé et il y a eu tout un petit mouvement autour de Jean Lasserre, qui est un autre qui a pris la succession en tant que secrétaire itinérant d'Henri Roser, qui a écrit un livre, Le chrétien devant la guerre. Moi, j'étais en première ligne, si je puis dire, puisque mon père de famille, a renvoyé à ce moment-là son livret militaire. Mais il n'avait jamais fait son service militaire puisqu'il était de la classe 1925 qui n'a pas fait son service militaire. Et donc...
Mais il avait quand même son livret militaire.
Et là, il a eu aussi... Il a adhéré au MIR. Et donc, il a eu un procès toujours à la caserne. Il est parti... il était père de famille. Je ne sais plus quel est le verdict qu'il a eu. Il a eu un petit peu, puisqu'il était fonctionnaire, il a été un peu retardé dans ses mutations. Mais il n'était pas le seul. Et puis, c'est là où il a rencontré René Cruz. Les Trocmés, des Thaïs, Pasteur Thaïs, et Jean Gosse également.
Mais ce dont on va parler peut-être aussi, ce sont des personnes qui étaient à la fois à l'Union pacifiste et en même temps au MIR. Alors par exemple, tu as parlé déjà de Henri Roser.
Henri Roser.
Il était sur les deux, dans les deux organisations.
Henri Roser était fondateur de la branche française de la réconciliation, mais il était aussi membre de l'Union pacifiste. Alors, il ne pouvait pas être président du MIR et avoir une action, des responsabilités à l'Union pacifiste. C'était d'accord, on reste ensemble, mais chacun ses responsabilités quand même. On ne pouvait pas cumuler. Donc il est resté très fidèle à l'Union pacifiste. Il était là à tous les congrès. J'ai même amené une fois ça. On avait aussi Daniel Guette, notre curé extraordinaire. Notre curé qui n'avait pas peur non plus de travailler avec les anarchistes et de les défendre, à défendre des objecteurs. On avait Georges Moreau, notre trésorier, qui était aussi membre de l'Union pacifiste, puisqu'il avait renvoyé son livret militaire et tout. Mais chacun avait ses responsabilités de son côté, mais nous retrouvions ensemble pour des actions, pour le soutien des objecteurs et pour les congrès. On était toujours là. Henri Roser, Théodore Monod venaient à l'Union pacifiste.
René Cruz.
René Cruz aussi. Lui, il a été longtemps, secrétaire du MIR. Il était aussi à l'Union pacifiste, mais sans y prendre de responsabilité. Mais alors, il a même souhaité, une fois, il avait fait un congrès qu'on fasse l'unification des deux mouvements.
Ah bon?
Mais bon, ça ne s'est pas fait, parce que le mouvement, le MIR tenait à sa base chrétienne, à la non-violence par rapport à, et l'objection de conscience par rapport à fidélité à l'Évangile, et l'Union pacifiste autant accueillait cela autant, mais ils ne pouvaient pas, eux, Mais on ne pouvait pas, en tant qu'Union pacifiste, le faire en tant que de l'Évangile, quoi. Donc, il valait mieux rester amis, très proches, mais on ne pouvait pas faire un seul mouvement.
Alors, justement, ce mouvement de la réconciliation, est-ce que toi, tu y assistais encore, par exemple, au congrès, à leurs réunions?
Oui, enfin, maintenant par visioconférence.
Oui.
Il me garde par sympathie, par amitié, parce que...
Pourquoi? Parce que tu es parti avec les anards?
Quand j'y suis entré, j'étais objecteur de conscience protestant, en 1967. Mais j'ai perdu la foi, je suis resté totalement objecteur de conscience et pacifiste, mais sans cette référence chrétienne. Mais j'ai jamais pu quitter mes amis de la réconciliation. Rosaire m'avait dit, tu n'es pas seul. Quand je dis que j'étais objecteur, je n'étais pas bien perçu de tout le protestantisme. Il m'a dit, tu n'es pas seul, et il y a le congrès de la réconciliation.
Alors, il y avait d'autres, justement, protestants dans l'Union pacifiste, Robert Jospin, Jean-Jacques de Félis.
Ah oui,
Et alors, eux, est-ce qu'ils étaient aussi à cheval avec le mouvement de la réconciliation?
Robert Jospin, je ne crois pas. Ils connaissaient très bien les gens de la réconciliation, ils avaient été en tribune ensemble et tout, mais je ne crois pas. Tandis que de Félis et Théodore Monod étaient membres des deux, oui. Ah oui, 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 ça...
Et alors, est-ce que, par exemple, ce mouvement de la réconciliation avait aussi le même but, par exemple, que l'Union pacifiste, c'est-à-dire de défendre dans les procès des objecteurs de conscience? Est-ce qu'ils avaient aussi des avocats?
Ah oui, 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 absolument. Hein. D'ailleurs, dans tous les procès, on peut dire qu'il y avait toujours un membre de un membre de la réconciliation, un pasteur, et un anarchiste qui venait défendre l'objecteur, qu'il soit protestant ou anarchiste.
S'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. Et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes, vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassin, le môme mine de rien, a joliment vengé. Les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense. Maréchaux assassin, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassin, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Et après cette déclaration antimilitariste de grand corps malade, nous reprenons notre entretien avec Maurice Monté et Annick Moreau au sujet des deux organisations pacifistes assez proches d'ailleurs, le MIR, le Mouvement International de la Réconciliation, et l'Union Pacifiste. Et c'est maintenant Annick Moreau qui va nous parler de l'action du MIR dans un village qui s'appelle Chambon-sur-Lignon. On va revenir un peu sur André Trocmé, parce que, bon, j'aimerais bien qu'on évoque encore l'histoire de Chambon-sur-Lignon, que les gens connaissent bien, mais ils ne savent peut-être pas comment, quelle est l'origine, quelle est la personne qui s'en est occupée. Alors, Henri Trocmé, vous pouvez nous en dire un mot?
Alors, oui, André et Magda Trocmé, parce que Magda, il a épousé donc une dame d'origine italienne, enfin italienne, et qui était une forte femme avec beaucoup de tempérament. Lui aussi, mais il était plus réservé. Et donc, il a été rédacteur des Cahiers de la Réconciliation, on dira peut-être mais deux mots après, et membre donc du comité du MIR pendant longtemps. Et puis donc, il s'est retrouvé en 1939, il était là, pasteur, au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, et donc, c'est un village où il y avait des sanatoriums et des colonies de vacances d'enfants, et aussi un mouvement, il y avait la CIMAT des femmes là qui travaillaient auprès des enfants, etc. Et puis il y avait la paroisse protestante avec beaucoup de protestants. Il y a aussi, c'est un coin où il y a aussi des darbistes. Mais lui, il était donc pasteur de l'Église réformée de France au Chambon-sur-Lignon. Et donc, ils ont tous caché des enfants pendant longtemps. Et des enfants, quelquefois, ils ont gardé dans ces colonies de vacances, chez les paroissiens, et les cachaient. Et puis, ils en faisaient passer en Suisse également. Et donc, toute la guerre, André Trocmé, lors des prêches du dimanche, il a soutenu toute la communauté, même au-delà de la communauté. Et puis, il a créé, donc, au Chambon-sur-Lignon, un lycée international avec des méthodes éducatives qu'on dirait très ouvertes, avec le pasteur Thijs, oui, également, que je l'ai bien connu. Enfin, bien connu. Je l'ai connu. Ce collège international était fondé sur la responsabilité des enfants, responsabilisation des enfants, des méthodes non-violence d'éducation, voilà. Et c'était très très ouvert. C'est un collège qui a reçu énormément d'enfants, jusqu'à les années 2000, des enfants quelquefois en situation de précarité affective. Puisqu'il y avait des gens, des enfants de personnes assez plus qu'aisées. Et voilà. Donc il y avait tous les problèmes de drogue, etc. Et puis il y a eu un drame qui s'est produit, et suite à ce drame, les profs, enfin tout ça, ça a créé, et le collège s'en est pas remis, et donc il est fermé maintenant, mais depuis pas longtemps.
Mais je crois que quand même à Chambon-sur-Lignon, chaque année, il y a encore des, on peut appeler ça des commémorations de tout ce qui s'est passé justement pour sauver ces enfants juifs, qui étaient très nombreux, je crois, finalement.
Ils étaient très nombreux, oui, oui. Et c'est Il y a tout un mémorial, enfin, c'est mémorial, pas un mémorial, parce que le Chambon, et c'est un village qui a été classé juste parmi les nations, ainsi que les Trocmés, ainsi que beaucoup de membres de la CIMADE, etc., enfin, qui ont essayé de sauver tous ces enfants. Donc, c'est un village qui a été classé juste parmi les nations. Et donc, il y a un musée. Et ce musée du Chambon, pour essayer qu'il ne disparaisse pas avec l'histoire qui passe, a été rattaché l'année dernière au mémorial de la Shoah. Donc c'est une association plus costaud, et donc le mémorial de la Shoah de Paris s'occupe aussi du musée du Chambon-sur-Lignon. D'accord. Ils font des conférences, ils font...
Ah, oui. Oui, et puis je vois que chaque année, il y a aussi pour la paix, il y a tous des conférenciers qui viennent, des écrivains. Je sais que, bon, il y a même quelque chose autour de Jean Giono, au Chambon-sur-Lignon. Donc, tous ceux qui représentaient le pacifisme, en somme.
Absolument.
Bon, alors, je vais voir maintenant un petit peu quelles sont les autres luttes qui du MIR. Moi, j'ai vu la lutte anti-nucléaire et pour le désarmement. Alors, c'est encore une lutte qui est actuelle, celle-là, la lutte anti-nucléaire et pour le désarmement.
Alors, on va... on va faire les deux choses différemment. Alors, déjà, on travaille maintenant essentiellement dans des pôles d'associations. Hein, on ne travaille plus tout seul. Mais on a toujours notre base importante. On est contre toutes les armes, contre les ventes d'armes. Donc, ces temps derniers, ce qui nous a beaucoup occupés, c'est de travailler avec l'ICAN contre le traité, pour le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a donc été passé il y a 3 ans maintenant. Mais il faut toujours se souvenir que ce n'est pas que contre la bombe atomique qu'on a lutté, et pourtant on a lutté depuis très longtemps. Il y a donc René Cruz qui a fait une campagne de députation à Nevers dans les années 65-66 pour donc faire connaître contre les essais nucléaires. Il y avait Jean Rostand, il y avait, voilà.
Théodore Monod.
Il y avait Théodore Monod, mais c'était, donc là, on était contre la bombe pour les peuples impactés, hein, puisque ça a commencé au Sahara, et puis ensuite en Polynésie, pour la France. Et donc, il a fait donc une campagne pour faire connaître toute la démarche anti-nucléaire, mais anti-bombe atomique. Et comme ressource de défense nationale telle que l'avait imaginé De Gaulle. Et puis ensuite, il y a eu donc... tout le mouvement a continué. Il y a eu le pasteur Gilbert Nicolas qui a été sur le Free donc jusqu'à Mururoa, Aliozo territorial, contre des essais nucléaires avec les gens de Nouvelle-Zélande et d'Auckland et des Américains. Et puis, c'est à ce moment-là que Jean Toula a fait « La bombe ou la vie » comme livre. Il n'était pas du MIR, hein, mais voilà. Et puis, après, ça a été aussi repris par notre présidente de l'époque, Marie-Pierre Bovy, qui était donc aussi de la communauté de l'Arche, de Lanza del Vasto, et qui a créé tout le mouvement Stop Essai, dont, avec la maison de vigilance, donc, et dont vient tout, voilà, tout, toute cette, cette histoire qui continue encore actuellement. Mais il faut toujours penser qu'au MIR, on avait pris comme emblème, si je puis dire, le désarmement nucléaire contre la bombe, etc., mais qu'on est anti, enfin,
contre toutes les armes
et contre toutes les ventes d'armes.
Et les fabrications.
Et les fabrications, naturellement. Voilà. Alors ça, c'est donc toutes nos campagnes contre les essais nucléaires. Et puis, autrement, il y a, on a toujours, puisque on sait bien, toutes les études prouvent que si en France on a du nucléaire civil en si grand nombre, c'est pour alimenter aussi le nucléaire militaire. Et c'est toute une industrie complète qui est à démanteler. Et donc, depuis les années 70, les membres du MIR qui s'y intéressent se sont engagés contre le nucléaire civil également, et pour le démantèlement de toutes nos centrales pour passer à de l'énergie plus renouvelable.
Mais justement, alors, bon, puisqu'on est sur le nucléaire, là, il y a quand même des annonces de notre président qui veut lui en remettre avec des EPR qu'il veut relancer. Alors, bon, ben là, il y a encore du travail pour le MIR.
Alors, c'est énorme ce qui nous attend, puisque, en plus, je dirais que la politique actuelle... aussi bien pour la bombe atomique, c'est de faire des petites bombinettes d'uranium et des armes d'uranium appauvri. Faire également des mini centrales nucléaires. Donc ça, c'est toute la recherche nucléaire du monde entier. Qui est de moins en moins importante, mais qui, parce que il y a une désinformation en France énorme, où on fait croire aux gens que le nucléaire c'est dans tous les pays. Non, c'est vraiment quelque chose de typiquement français, que 45% ou au moins de notre mix énergétique, comme il dit si bien, est d'origine nucléaire. Et ils ont fait passer donc à l'Europe dans un compromis avec les Allemands et les Polonais que le nucléaire serait propre. Or, on sait bien que l'extraction de l'uranium vient toujours de Russie, malgré l'embargo, vient du Niger, et on ne sait pas si les djihadistes qui prendront bientôt le pouvoir nous le vendront. Donc on risque d'être embêtés. Ensuite, les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour refroidir. Nos fleuves ont de moins en moins de débit d'eau. Nos centrales pourraient devenir des bombes à retardement très très vite. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Donc dans toute la France, il y a des comités qui travaillent sur ces sujets, mais nous, on ne le fait pas typiquement, on relaye, et chaque membre du MIR qui veut s'engager sur ces sujets-là s'engage localement avec les autres, avec le MAN, avec les maisons de vigilance,
avec l'Union pacifiste.
L'Union pacifiste. Enfin,
ouais. Alors l'Union pacifiste a une revue qui s'appelle l'Union pacifiste. Union pacifiste, et le mouvement de la réconciliation a une revue qui s'appelle les cahiers de la réconciliation, ouais. qui vont fêter leurs 90 ans. C'est une des plus anciennes revues de France et qui a toujours défendu aussi les thèmes de la paix et de la non-violence. Alors ils disent qu'ils ont un tirage à 1500 exemplaires pour une diffusion tant en France qu'à l'étranger.
Oui, oui.
Alors on est presque concurrents là.
Oh, certainement pas concurrent, mais plutôt complémentaire. Un complémentaire, parce que les abonnés à la réconciliation gardent cette base de l'Évangile.
Tu es toujours abonné?
Ah oui. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Je ne peux pas quitter ces amis qui m'ont sauvé il y a 50 ans,
comment ou 60 ans. Comment ils t'ont sauvé?
Ah ben, en me disant que j'étais pas tout seul et qu'il y avait aussi d'autres chrétiens qui refusaient l'armée. Et puis quand j'ai dit j'y croyais plus, ils m'ont dit tu restes avec nous par amitié. Voilà, donc je crois que pour moi, ils m'ont un peu sauvé, parce que il y a eu un moment où je me sentais tout seul et je me suis plus senti seul. Mais et puis il y a eu des cahiers. Et des unions pacifistes où il y a eu des choses communes. D'accord. Et puis, quand nous avons organisé en 2002 le colloque sur l'histoire du pacifisme et de l'objection de conscience en Europe, on nous avait prêté la salle de la faculté de théologie de Paris. Ça, c'était bien, quand même.
Il y avait du monde, on avait pris des photos.
Oui, 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 c'était bien. Et alors, j'ai réussi à faire les actes du colloque avec en demandant leur texte à tout le monde, ceux que j'ai obtenus, les faire traduire en français ou les faire traduire en anglais. Mm-hmm. Donc, pour obtenir les actes en français et en anglais, ça m'a pris beaucoup de temps au niveau international, et puis il fallait les traduire et tout.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup de nationalités qui étaient représentées, oui. Là.
Et j'ai donné toute cette matière au cahier de la réconciliation qui en ont fait. Oui, il y avait nos amis russes qui étaient venus. Il y avait les Russes.
Les Turcs.
Il y avait les Turcs, il y avait les Grecs, il y avait les Chypriotes.
J'ai lu le numéro de septembre 2019 que vous m'avez confié et j'ai vu votre éditorial qui s'appelle « Désobéir ». Alors, j'aimerais bien savoir, dans la désobéissance, qu'est-ce que vous entendez, vous, Omir, par désobéissance? Parce que c'est un mouvement qui a tendance à s'étendre.
Et donc, une désobéissance civile, c'est que on pense qu'une loi est injuste, qu'on doit faire quelque chose pour changer et la loi et la mentalité, au risque d'aller au procès, au risque d'une incarcération en France, quoi, et quelquefois au risque depuis cette fameuse loi sur le séparatisme, il semblerait que c'est aussi au risque d'une dissolution d'association. Et donc là, il faut bien dire à tous nos jeunes qui ont le combat écologique très fort chez eux, chez tous nos jeunes, là c'est vraiment ça qui les motive et qui les motive presque sans espérance. Quelquefois, je pense qu'on a un rôle à jouer, nous au MIR. Et en tout cas, génération plus ancienne, pour leur redonner un peu d'espérance. Ils vont nous dire, c'est à cause de vous qu'on est dans cet état-là. Mais ils manquent quelquefois donc d'une ouverture vers la paix et d'une ouverture, voilà. Et donc, eux, ils pensent que la grève, les manifestations non violentes, ce qui est déjà extraordinaire, hein, s'enchaîner, etc., c'est de la désobéissance civile. Ça l'est, mais ça va En tout cas en France et en Allemagne, ça va en garde à vue. On n'a pas encore des procès retentissants, quoi. Hein. Voilà. Mais c'est le début. C'est très bien. Enfin, c'est déjà une. C'est difficile. C'est compliqué. Donc c'est une démarche de désobéissance qui est vraiment à saluer.
Oui, d'ailleurs, Greenpeace International, Greenpeace France aussi mène la désobéissance, si on peut dire, non violente. Et justement, il faut que ce soit à visage découvert et sans s'attaquer à l'adversaire, comme on dit.
Absolument.
Alors, ça se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Alors, parce que je lis justement dans votre éditorial, face aux multiples atteintes aux droits et contre les injustices structurelles, la désobéissance civile non violente s'inscrit depuis Gandhi dans les luttes collectives aux côtés d'autres actions non violentes, notamment, vous en avez parlé, les grèves, les boycotts ou les manifestations dans les lieux publics ou privés. Les boycotts, on va y revenir. Là, on se rapproche, par exemple, du conflit israélo-palestinien. À un moment donné, il y a donc une association qui s'appelle BDS qui, justement, a prôné le boycott de certains produits qui étaient produits dans la partie palestinienne par les Israéliens. Donc, ils ont été condamnés et même plus ou moins interdits. Est-ce que le MIR en a fait partie, justement, de ces boycotts?
Alors, tout à fait. Le MIR a soutenu toute la... BDS est toujours à l'heure actuelle, hein, puisque ça marche toujours. Effectivement, même on a soutenu par la plateforme des ONG pour la Palestine, on a fait des lettres ouvertes à certains parlementaires français qui étaient sous l'influence sans doute de lobbies israéliens qui pensaient et qui voulaient que tout ça, ça devienne illégal et illégitime. Et donc nous, on a participé à ça et je continue à faire très attention personnellement à ce que je n'achète pas de produits issus d'Israël et surtout des colonies. C'est très difficile à repérer, mais par exemple tout ce qui est sel de la mer morte, tout ça que les vieux, pour se régénérer, se avalent ou se mettent en masque sur la figure, tout ça, il n'y a pas que des oranges ou des mandarines, mais il y a tout ce côté qu'il faut boycotter. Et il y a également et ça c'est plus difficile, des microprocesseurs c'est plus difficile, il faut plus se renseigner, voir où l'entreprise qui fabrique est située et si elle n'est pas dans les territoires occupés, dites colonies.
C'est la marche des petits gars qui veulent pas la faire. La marche de ceux qui croient qu'on est bien mieux chez soi. Un coussin sous le derrière eux. De bois avec une belle fille qui prépare le rata. C'est la marche des assis, la bonne marche arrière. Celle des civilisés, la marche de la joie. Soldat sans uniforme, c'est d'une bien plus jolie forme. Casse à la gueule d'un homme, et c'est bien mieux comme ça. Ceux qui sont partis un soir, un flingue en bandoulière, et qui dorment quelque part sous une croix de bois. S'il sortait des cimetières, chanterait à pleine voix que l'on était mieux sur terre et qu'il faisait moins froid. Qu'il regrette le soleil, le dimanche et les filles et tous ces jolis plaisirs que l'on trouve ici-bas. C'est pour eux qu'il faut qu'on chante cette marche triomphante, marche de ceux qui s'arrêtent et qui ne marchent pas.
Alors, on va peut-être parler un peu de l'actualité là, parce que justement, j'ai vu que le MIR a pris des positions pour l'appel à la paix en Ukraine. Alors j'ai lu ce qu'ils disent, eux, nous voulons exprimer notre solidarité avec la population ukrainienne qui subit les conséquences terribles de cette guerre et nous saluons et soutenons les Russes qui, aspirant la liberté, à la démocratie et à la paix, s'opposent avec courage et dans les conflits difficiles à cette politique guerrière de leur gouvernement. La guerre ne peut jamais être une solution. Est-ce que l'Union pacifiste a la même position ?
Ah oui, absolument. On est absolument contre toute guerre. Nous soutenons les objecteurs aussi bien russes qu'ukrainiens et biélorusses. Pour nous, il n'y a pas de différence. Hein.
J'ai lu dans le numéro alors de juin 2022, donc des cahiers de la réconciliation, les causes profondes du conflit russo-ukrainien. Alors là, c'est expliqué. Et puis une lettre au patriarche Cyrille de Moscou. Et même encore une lettre à Vladimir Poutine. Mais enfin, commençons par le patriarche Kirill de Moscou. Pourquoi avoir fait une lettre à ce patriarche ?
Alors, une des caractéristiques du mouvement international de la réconciliation et du MIR, branche française, c'est d'interpeller les églises et les églises chrétiennes en particulier, et leur rappeler le message évangélique. Donc, dès le 23, on savait que ça y est, Poutine allait, le président Poutine allait déclencher son opération spéciale, sa guerre contre l'Ukraine, pays indépendant, et que donc tout ça avec le soutien de l'Église orthodoxe russe et de son patriarche Kirill de Moscou, ces deux personnages plus l'entourage du président Poutine, c'est des personnes qui ont le goût du pouvoir et le goût de la mainmise sur un pays. Et donc, il nous a semblé immédiatement que c'était pour nous la chose à faire, puisque Gandhi dit toujours qu'il faut aller frapper l'autre, l'interpeller dans sa conscience. Donc, il nous a semblé évident. Puisque on a manqué un peu à tous nos devoirs les années d'avant, puisque ça fait belle lurette depuis qu'il a été élu patriarche là, qu'il est pas un homme respectable, voilà. Et donc dès le 24, on l'a envoyé. Et on sait que le conseil œcuménique des églises a repris très vite notre lettre, à peu près dans les mêmes termes, pour lui renvoyer. Hein, tous les chrétiens du monde entier ont essayé de parler à sa conscience.
Et qu'est-ce qu'il a répondu ?
Eh bien, c'est étonnant, il n'a rien dit. Nous n'avons aucun. Il a même été beaucoup plus loin, puisqu'il a, il a dit maintenant que les soldats russes morts au combat en Ukraine allaient rejoindre directement le paradis. Donc, il a fait une exégèse théologique et biblique assez spécieuse, et il s'est pris un peu pour Dieu le Père.
Pour vos 100 ans, ça va se passer quand?
Alors, on va fêter les 100 ans, donc le 9 et le 10 juin 2023. Alors, donc, le 9, c'est un vendredi, le 9 juin, ça sera au Sénat, au Palais du Luxembourg, à Paris. Ça sera surtout un colloque historique. Un colloque historique. Par exemple, donc, on commencera par le MIR et la cause de la paix dans l'Italie de 47, Magda Trocmé, une Italienne de retour chez elle. On aura la présence, alors, Peter Cousins, Marianne entre Britannia et l'oncle Sam. La présence française dans le mouvement de la réconciliation. On aura Patrick Cabanel, Jeunesse, pacifisme dans les années 20. La participation de Philippe Vernier aux campagnes pacifistes pour le désarmement 32-33. Enfin voilà, ça va arriver jusque la période des années 68 avec René Cruz, l'engagement du mouvement de la réconciliation contre la militarisation de la France, et ensuite le travail de Jean et Hildegarde Goss en formation dans le monde entier, aux Philippines, en Amérique du Sud, etc. Et l'après-midi, le 10 juin, ça sera à l'Institut protestant de théologie, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des étudiants de théologie qui ont créé un petit groupe de réflexion sur le pacifisme. Donc
on voilà. Va les inviter à notre émission. Hein.
Voilà, bah oui. Et puis donc là, il va y avoir donc une table ronde sur le MIR France et les mouvements non violents des pays d'Afrique francophone. Donc il y aura Jean-Pierre Massamba du MIR Congo, Yao Kapko du MIR Togo et Augustin, notre président, du MIR France. Et l'après-midi, et puis après, une intervention de Frédéric Rognon, qui est professeur de philosophie à la faculté de théologie de Strasbourg. Théologie et non-violence, quelle dialectique pour aujourd'hui? Et la table ronde pour finir, les enjeux de non-violence et de réconciliation aujourd'hui. Donc avec Jacques Semelin, Maria Biedrava, du MIR France et de Church and Peace, et Maria Antonietta Maleo de l'IFOR.
Bon, ben alors on va donner rendez-vous à tous nos auditrices et nos auditeurs là-bas. Et puis, une dernière question. Parce que là, vous avez parlé de la militarisation de la France. Est-ce que vous avez l'impression que le service national universel que notre président est en train de mettre en place touche plutôt justement à cette militarisation, s'approche de cette militarisation?
Bah oui, c'est l'apothéose du retour à un service militaire qui ne veut pas dire son nom. Sur des jeunes encore plus jeunes que ceux de 18 ans, hein. C'est maintenant, ça serait 16 ans, alors on leur fait faire du sport, mais enfin l'idée c'était quand même qu'il y ait une oui. cohésion sur les valeurs de la République et sur plutôt de la défense nationale et la militarisation. Donc, et en plus, c'est un service qui serait donc obligatoire, et donc naturellement, comme le statut de l'objection de conscience à l'armée ne fonctionnerait plus puisque c'est un moment de l'éducation des enfants et ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. Les jeunes qui refuseraient ne pourraient pas refuser. Ils seraient insoumis et réfractaires. Donc, mineurs et insoumis, c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi. Voilà. Donc, autant le service civique sur la base du volontariat et Erasmus, les programmes où les jeunes de l'Europe entière s'ouvrent au monde, c'est quand même autre chose et ça a une autre tenue que le lever du drapeau et la Marseillaise en chœur.
Et il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ces mouvements vraiment pacifistes et non violents, mais ils ne s'engageront pas pour autant pour faire marcher un mouvement et aussi bien au point de vue administratif que pour le journal, pour la revue, s'engager là-dedans, c'est pas leur truc.
Qu'est-ce qu'il faut leur dire alors pour qu'ils puissent s'engager là-dedans?
Je sais pas, nous, comme l'Union pacifiste, à chaque fois qu'il y a un procès ou une manif, ils sont là. Ils nous aiment bien, les jeunes. Mais on ne peut pas les critiquer parce qu'ils s'engagent beaucoup plus sur l'écologie, sur des choses très présentes actuelles. Et notre vieux pacifisme ne les intéresse pas beaucoup pour s'engager. Je ne sais pas comment il faut leur dire. Hein, mais
et pourtant, est-ce qu'ils ne sont pas un peu menacés par le service national universel par hasard?
Ah, certainement, oui, ils sont très menacés par le SNU, qui est vraiment quelque chose d'horrible, qui prépare la jeunesse au militarisme. Hein. Moi, tout de suite, ça m'a rappelé Pétain. Je suis né en 1944. C'était une époque où on en parlait beaucoup, même si on ne l'appréciait pas. Et ça m'a rappelé tout à fait cette époque-là.
Oui, mais 44, tu étais encore jeune. Tu n'allais pas à l'école, tu ne relevais pas le drapeau, tu ne chantais pas « Maréchal, nous voilà ». Moi, oui. Ma mère, qui était institutrice, l'a fait chanter à ses élèves. C'était obligatoire.
Oui, j'étais obligé.
Mais tu étais encore tout jeune.
Moi, j'étais au berceau. J'étais au berceau, mais...
Tu as des souvenirs de ça? Tes parents t'en ont parlé?
Non. Non, mais j'ai appris après tout ça. Que j'ai eu la chance de rencontrer étaient des gens, un homme et une femme extraordinaires et qui sont un peu l'honneur du protestantisme à l'époque.
Et toi aussi, tu es l'honneur du protestantisme?
Oh non, je ne suis plus protestant depuis longtemps. Je ne suis plus protestant depuis longtemps. Mais je ne renie pas cette base. Mais l'honneur, ça dépend des opinions.
Les petits comites surgissant de l'ornière, les anciens combattants sous leur débilité, les soldats reconnus qui ne sont pas morts d'hier, le bon français qui vient se réhabiliter, toute la funambule de la patrie française s'est mise en garde à vous tel un seul corps puissant, aux accents discordants de cette Marseillaise qui n'a pour canebière que des boulevards de sang. Ma Marseillaise à moi, c'est le bruit des fontaines. Ma Marseillaise à moi, c'est la chanson du vent. C'est le voile bleuté de beauté souveraine. Quand la lune en tapant à la sorgue se vend. C'est l'appel du pollen à son flirt et la belle. C'est le miel du printemps dans les ruches d'amour. Les fleurs de l'amitié qui poussent encore belles. Rafraîchies de rosée dans les parfums du jour. Des larmes tricolores jaillissent des paupières. Quand s'élève un drapeau violet depuis longtemps. J'en sais de fous furieux du fond des cimetières. Ne bouge pas Lazare, il n'est pas encore temps. Laisse-les se leurrer, se goinfrer d'uniforme.
laisse-les ces voyeurs d'un pays décadent. Laurier leur beau drapeau sans chapeau uniforme, dans ma feuille de vigne je réinvente Adam. Car mon drapeau à moi, c'est ce bout de nuage, sans couleur, sans patrie, sans clairon, sans soldat. La première goutte d'eau tombait les soirs d'orage, ma terre troubadour qui fredonne tout bas. Car mon drapeau à moi, c'est un baiser de femme, la femme que la vie a nichée sous mon toit. Ma guitare enflammée quand je monte une gamme, et que les notes agiles caressent mes doigts.
Après cette chanson pacifiste de Juan Paul Verdier, il me reste à remercier Annick Moreau du MIR et Maurice Monté de l'Union Pacifiste. Ils nous ont rappelé une partie de l'histoire des deux organisations sœurs de l'antimilitarisme. Pour en savoir plus, bien sûr, sur ces deux mouvements, vous pouvez vous abonner à leur revue. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao!
Bonjour, moi c'est Richard, ici c'est mon empire, de la porte à la piste et de la piste au ciel. Vous avez l'air d'un ange, vous savez, mademoiselle. Dans cette robe blanche, vous brillez comme un cygne, avec vos boucles blondes, on dirait Marilyn. Oh, viens danser, j'ai tout un tas de trésors dans mon chapeau caché. Viens danser, si tu veux, je te les sors. Mais d'abord, viens danser une danse et... Ah, tiens, mon verre est vide, je reviens. Salut, moi c'est Richard, ici c'est ma maison. De la porte à la piste et de la piste au plafond. T'as l'air d'un ange, tu sais ça, mademoiselle. Cette veste cintrée te va plutôt pas mal. Avec ton regard fier, on dirait Claire Chazal. Oh, viens danser. Ma voiture est dehors, on pourra se balader. Allez, viens danser. Si tu veux bien, on sort, mais d'abord viens danser. Une danse. Tiens, mon verre est vide, je reviens. C'est Ricard, ici c'est chez moi. De la porte à la porte, de la porte à moi. T'es un ange, mademoiselle. Avec tes hanches qui tanguent et ton cul qui déchire. Dans ton costume orange, on dirait Casimir, mais c'est pas grave, allez. Viens danser, viens danser. Je sais pas où tu dors, mais ça peut s'arranger. Allez, viens danser, viens danser. Ce que tu veux, je te le sors. On pourra s'amuser, ouais, s'amuser. Mon verre est vide. Je...
Accoudé au comptoir, comme tous les samedis soirs, pour sabrer le cafard. Une pinte à la main, moi, je regarde Richard. On ne nous voit pas tous, mais nous sommes là. Oh, tous ces lions blessés dans l'ombre du bar. Oh, à la lumière explose et les verres pleuvent. Des longs fauteuils en cuir à la piste de danse partout. Les corps se frôlent sans jamais s'embrasser. Sous la bière qui déferle, dans la fièvre qui monte, nous sommes quelques milliards ici, c'est notre empire. De la porte à la piste, et de la piste au ciel, avec nos cœurs qui courent pour attraper les rires que nous avons perdus au fond de nuit trop vieille.
Oh, un jour par une fente de l'aube. Un raisin noir est tombé, qui s'en est allé roulant jusqu'au pied de la muraille de l'éternité. Et quand ce raisin s'est écrasé contre l'éternité dure, de son sang sucré je suis né, moi le berger de parole, mon pays, c'est le pays des pèlerins. Mon pays, c'est un ruisseau vagabondant qui va son chemin d'ivrogne entre la montagne et la mer. Mon pays, c'est peut-être une étoile rouge, une figue qui tombe dans la bouche de Dieu, qui tombe rouge comme un cœur. Mon pays, c'est l'âme du monde, où demeurent toutes paroles humaines. Et moi, je suis berger de paroles. Voilà ma vie. Un jour, par une fente du temps, un raisin blanc tombera, qui s'en ira trébuchant jusqu'au pied de la muraille de l'éternité. Et quand ce raisin s'écrasera contre l'éternité dure, dans son sang je me noierai, dans un raisin blanc je mourrai, moi le berger de paroles.
Monsieur Guillatou qui est gris, sa blouse et son tabac. En salle des profs, son profil bas, sceptique de vieil et gris. Personne ne sait ce qu'il fait de sa vie, il passe inaperçu. C'est peut-être un dingue de PMU ou de philatélie. Guy ne dit pas à ses collègues que moitié de son salaire part en mandat pour le Niger. Vers sa tribu Touareg, y a là-bas sa femme qui l'attend. On accueille en ami le gentil beau-frère de Paris qui vient deux mois par an. Les vrais cons, c'est ce qu'ont l'air de ce qu'ils sont. Moi je préfère quand le mystère se cache derrière. Si c'est la guerre des apparences, faut pacifier, faut pacifier. Fini de jouer la transparence, oh pacifions. Mamselle Josie la secrétaire fait rire tout le personnel avec ses longues jupes en flanelle et ses bas couleur chair. Quand ça rigole sous la ceinture, les blagues de cul qui fusent, ça rend notre Josie toute confuse, le nez dans ses factures. Josie, son truc, c'est les ados. Les jours de RTT, elle cède à toute leur volupté. Mi maso, mi sado. Elle en consomme un par semaine, et le jeu terminé. Le jeune cadavre est inhumé sous sa haie de Troène. Les vrais cons, c'est ce qu'on l'air de ce qu'ils sont. Moi je préfère quand le mystère se cache derrière. Si c'est la guerre des apparences, faut pacifier, faut pacifier. Fini de jouer la transparence, oh pacifions, oh pacifions.